La librairie Filigrane vous invite à la présentation du nouveau livre de Marek Alter, Ève, le 14 décembre à 18h. Marek Alter répondra aux questions de Michel Goethe. La présentation sera suivie d'une séance de dédicaces. Marek Alter à la librairie Filigrane, 39 avenue des Arts à 1040 Bruxelles, le mercredi 14 décembre à 18h.
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur notre émission qui chaque semaine vous apporte des nouvelles de la planète du bien-être et du développement personnel. Alors récemment, je lisais un article sur la photothérapie. Alors non pas celle des rayons, mais celle de la photo proprement dite. Alors les photos que j'ai vues montraient une femme chauve qui mettait sa perruque vu qu'elle elle était atteinte d'un cancer et donc elle était chauve due à la thérapie. Elle avait sa perruque, elle s'amusait avec sa perruque, elle la mettait sur son mari. Et donc les photos montraient un jeu avec cette perruque et cette dame chauve. J'ai lu l'article, je me suis intéressée de plus près et je vous ai invité, en tout cas elle m'a fait l'honneur de bien vouloir accepter mon invitation, donc j'ai invité l'auteur de ces photos pour qu'elle vienne nous expliquer sa démarche thérapeutique par rapport à la photo et la thérapie. Alors, elle s'appelle Émilie Danchin.
Oui, c'est ça, bonjour.
Bonjour Émilie.
Je vous remercie déjà de l'invitation. Hein. Effectivement, je suis toujours très contente de venir parler de ce qui me passionne et ce qui m'occupe de plus en plus dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire toutes les utilisations de la photographie dans une optique d'accompagner les personnes et les soigner, soit au sens large, dans une optique de bien-être, ou alors au sens strict, même en thérapie.
Vous voulez que je vous présente ?
Ah, si vous voulez, oui, bien sûr.
Présente. Donc, vous êtes photographe,
oui.
Vous êtes philosophe et thérapeute.
C'est ça.
Alors, vous avez travaillé en entreprise jusqu'en 2008. Mm-hmm. Et puis, vous avez quitté ce monde-là pour créer analytique photographique, dans lequel vous conciliez votre passion pour l'image et celle pour l'humain.
Tout à fait.
Alors, vous vous êtes spécialisée en psychosomatique relationnelle,
oui.
En photothérapie et en photographie thérapeutique. Alors, quand même, un tout petit peu d'explication, parce que je sais ce que c'est la photo.
Oui.
Je connais la thérapie.
Oui.
D'ailleurs, nos auditeurs aussi, à force de nous entendre chaque semaine. Alors, par contre, psychosomatique relationnelle, je ne sais pas. Vous allez nous dire petit mot.
Oui, c'est trois choses à expliquer. Donc effectivement, il y a la photographie, qui ça tout le monde connaît, et puis la thérapie aussi, en tout cas les auditeurs connaissent. Alors après, il y a dans le monde de la photothérapie, on va dire, on fait une grande distinction entre la photothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de photographies par des professionnels de la santé, donc ça peut être des photos existantes, il n'est pas nécessaire de savoir faire de la photo ou d'être photographe pour le faire, et donc c'est une utilisation vraiment dans le cadre de thérapie, on va dire de psychothérapie.
Et comment est-ce que l'un rentre dans l'autre ?
C'est-à-dire ?
Comment est-ce que vous utilisez une photo d'une personne en thérapie, elle apporte des photos d'elle ?
Ah, ça dépend de ce qu'on fait. Mais donc, il y a d'abord, pour revenir sur les trois mots qu'on avait au début, donc il y a la photothérapie.
Heureusement que vous allez structurer, parce que sinon, on ne va pas y arriver.
Mais c'est aussi, allez-y. Voilà. Donc, la photothérapie, c'est vraiment l'utilisation de la photographie dans un cadre vraiment strictement thérapeutique. Donc, a priori, par des psychanalystes, des psychothérapeutes, des thérapeutes ou même des médecins. Donc, ils vont se dire, tiens, à un moment donné, j'utiliserai bien l'image dans le cadre de mes consultations pour soigner des personnes qui, elles, prennent rendez-vous vraiment en tant que patients. Donc ça, c'est vraiment pour expliquer ça, c'est ça. Alors, on parle de photothérapie. La photographie thérapeutique, c'est toutes les utilisations, toutes les pratiques photographiques qui vont faire du bien au sens large. Alors, ça va justement de Pascal, qu'on voit dans l'article duel. C'est elle-même qui a fait les photos, donc qui souffrait d'un cancer.
C'est pas vous qui avez pris les photos ?
Non, c'est elle.
D'accord.
Donc, elle a fait tout un travail d'autoportrait pendant toute sa maladie. Donc là, on est vraiment à la photographie thérapeutique. C'est toutes les pratiques photos qui, à un moment donné, vont générer un bien-être d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'est plus du tout dans le cadre d'une consultation chez un thérapeute.
Elle savait que c'était thérapeutique ou elle l'a fait par plaisir ?
Pas par plaisir, elle l'a fait. Ça a été une réaction, comme une réaction réflexe de survie lorsqu'elle a appris qu'on lui diagnostiquait un cancer du sein. Et donc, voilà, quand on est sous le choc d'une nouvelle comme ça, une nouvelle qui est traumatique, et puis après, avec un parcours du combattant qui va suivre, on réagit tous différemment. Et Pascal, donc, c'est quelqu'un qui travaille dans la presse en Suisse, qui est très créative, et sa réaction a été vraiment qu'elle allait photographier tout ce qui lui est arrivé, qu'elle allait se mettre en scène. C'est quelqu'un qui a un humour incroyable. Et donc, elle s'est dit, je vais faire des photos et puis je vais faire un blog pour montrer comment tout va bien se passer. Donc là, on voit tout de suite qu'on n'est pas... Donc, elle ne va pas consulter quelqu'un pour être accompagnée. Elle s'auto-accompagne, mais on sent bien qu'elle est dans une transe presque hypnotique positive puisqu'elle dit qu'elle va montrer comment tout va se passer. Donc, au travers de cette pratique photographique.
C'est le montrer qui est important dans ce cas-là ?
Dans ce cas-là, c'est ce qu'elle décide de faire. Et puis, alors, elle commence à documenter tout ce qui lui arrive et à travailler sur un blog. Un blog qui n'a jamais vraiment... eu lieu finalement ni existé. Puis c'est quelqu'un qui est formé à l'hypnose, elle est thérapeute en hypnose, donc je pense qu'elle est vraiment partie dans une projection dans le futur. Elle s'est projetée comme dans le futur, elle aurait réussi.
Mais ça, c'est la photothérapie.
Là, on est dans la photographie thérapeutique.
Photographie thérapeutique.
Ouais. Donc, je reviens là-dessus. Donc, photographie thérapeutique, c'est vraiment toutes sortes de pratiques photographiques qui peuvent être individuelles, comme Pascal l'a fait, ou collectives. Ça peut être des jeunes dans un quartier qui décident d'acheter des appareils jetables et de faire une mission et de montrer comment leur quartier est chouette. Ça va leur faire du bien. Ça va vraiment, c'est toutes sortes de pratiques qui font du bien au sens large, parce que ça va travailler l'estime de soi, ça va projeter une image d'un quartier ou d'une communauté différente, ça va permettre de tisser du lien autrement entre les personnes, etc., etc. Mais qui sont quand même bien distinctes de quelqu'un qui va téléphoner à un thérapeute pour prendre un rendez-vous dans le cadre d'une consultation thérapeutique. Donc c'est ça la grande différence.
Je me souviens à l'époque où j'étais en formation, on faisait souvent des exercices qu'on appelait photolangage.
Oui.
Et donc le formateur nous plaçait des photos au milieu de la salle. Puis il fallait prendre la photo qui à ce moment-là nous parlait le plus. Voilà, et dire ce qu'on voyait dans cette photo, pourquoi est-ce qu'on avait choisi cette photo-là, pourquoi à ce moment, voilà, qu'est-ce qui nous parlait dans cette photo. Et selon l'exercice, il fallait parler plutôt de son ressenti ou plutôt de son émotion, etc. Enfin bon, bref, est-ce que ça fait partie de ce que vous faites?
Oui, tout à fait, parce que ce qui est évident, c'est que la photographie, le document photographique ou la pratique est très, très intéressant sur le plan de l'identité ou de ce qui se passe, parce que quand on regarde une photo, on est dans quelque chose qui est tout à fait familier, donc on est très à l'aise. C'est très rare de ne pas se sentir... à l'aise devant une photo, donc quand on
qui n'est pas de nous.
Peu importe, pas une photo, si on ouvre un magazine ou...
Oui, mais ce n'est pas nous sur l'image.
Bah, dans les photos langage, c'est rarement nous sur
l'image. Non, c'est pour ça que je veux dire, on est plus à l'aise quand ce n'est pas nous sur l'image.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est face à une photo, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très familier comme support. Donc, c'est plus facile de dire quelque chose sur une photo que sur une œuvre d'art, par exemple. On sera plus à l'aise. Donc, et puis on se met à parler assez naturellement. C'est toute la force des photolangages, hein, pour faire parler les personnes.
Ça faisait partie des icebreakers classiques.
Tout à fait. Donc on a presque l'illusion que c'est verbal, en fait. Parce que quand on regarde une photo, on se met tout de suite on voit des choses, on reconnaît, puis on se met à bavarder. Donc c'est presque, on a l'impression qu'on est dans le verbal et le cerveau cognitif, il s'y retrouve tout à fait. Or, c'est vraiment une illusion, parce qu'en attendant, c'est quand même un support qui est visuel. Hein. Donc en fait... Oui, on est conscient qu'on est en train de regarder une photo et on est conscient qu'on choisit une photo pour telle ou telle raison. Mais en fait, ce qui se passe, c'est beaucoup plus immédiat et beaucoup plus direct. C'est une surface qui est visuelle et qui est couverte d'émotions d'une certaine manière. Donc, on est en canal direct au travers des yeux avec une matière qui est visuelle. Or, les yeux sont vraiment tout à fait font partie du corps. Donc, on est en canal direct avec toutes nos mémoires corporelles et toutes nos mémoires émotionnelles. Donc,
c'est différent quand on regarde une photo qu'une peinture? Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il y a une telle grande différence?
Parce que la photo est faite avec la réalité. Donc il y a cette espèce, une peinture, même quand elle est hyper réaliste, on sait bien, on le sait qu'elle n'est pas faite avec la réalité. Donc la photo, le document photographique, il est fait avec de la réalité. Et donc il y a quelque chose, quand on regarde une photo, où il y a à la fois, tout de suite, c'est un certificat d'authenticité, qu'est-ce que ce qu'on regarde est vrai, mais en même temps, c'est très émotionnel. Quand on regarde une image, il y a d'abord le niveau où on décrit, bah voilà, je vais choisir cette photo, c'est un arbre, je reconnais qu'il y a une femme là-dessus, enfin, je dis n'importe quoi. Puis très vite, c'est d'abord quelque chose qu'on décrit, puis très vite, il y a des émotions qui nous viennent. Donc c'est quelque chose qui nous arrive, on va dire, cette femme que je vois dans la photo me fait penser à, etc. Et on commence à être tout d'un coup bouleversé, c'est des choses qui nous reviennent. Or, donc, la photo, elle est faite avec du réel, donc elle va venir authentifier les choses, c'est vrai, c'est véridique, mais en même temps, ça va authentifier le fait que ça nous arrive à nous, donc c'est du réel, c'est réel pour D'accord. nous. Donc, ça renforce notre sentiment qu'on existe et que ce qu'on voit nous touche et qu'on est touché comme ça et donc on est bien réel et on se sent exister. C'est pour ça que c'est un support qui est extraordinaire sur le plan
Alors,
thérapeutique.
Alors, d'expérience, sauf oui. que quand j'emmène mes enfants au musée où il y a des peintures, ça, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins, je dirais peut-être pas réceptifs, mais réactifs mm-hmm. à la peinture qu'à la photo. Mm-hmm. Je les ai emmenés voir des photos récemment et je les trouvais beaucoup plus réceptifs mm-hmm. à la photo qu'à la peinture.
Mais c'est plus familier, hein, c'est hyper réaliste. Et en plus de ça, aujourd'hui, on fait tous des photos toutes les 5 minutes. Donc il y a quelque chose à la fois de très banal, c'est quelque chose d'hyper évident, d'hyper banal, mais qui est très, très puissant. Parce que c'est vraiment, comme c'est visuel, c'est composé d'éléments visuels. Ce n'est pas du langage, on est en deçà du langage. Donc ça vient nous toucher directement sur notre canal émotionnel et corporel. C'est aussi vrai que vous pouvez avoir des personnes qui vont choisir des photos, la consigne étant choisir une photo qui te touche, et qui vont être capables de décrire des choses très... qui vont se mettre à décrire des choses qui ressemblent furieusement à des vécus qui relèvent des
et
premières...
Et une photo fait surgir chez chaque personne autre chose.
Tout à fait.
Ou en tout cas pas la même chose.
Ben c'est ça la force de ce médium, même si on n'utilise que des photos, que j'irais des photos existantes. Et c'est par exemple en psychothérapie, c'est vraiment ça qu'on peut faire, hein, simplement pour commencer. Et c'est exactement comme un photolangage, sauf qu'on est dans le cadre d'une consultation en thérapie. Et puis si on a été formé à l'utilisation d'images pour que les personnes explorent leurs ressentis en regardant des images, là, on n'est plus dans le photolangage, on est dans ce qu'on appelle la photoprojection. En fait, on va renforcer ce processus très naturel par lequel, en fait, quand on regarde une image, une photo existante, on est très à l'aise parce qu'on se dit, bah voilà, j'ai choisi celle-là pour toutes sortes de raisons. Mais en fait, donc, il y a ce contenu visuel qui est très, très familier, très réaliste. Mais en fait, on bascule surtout dans un monde de projection. Parce qu'en fait, on raconte tout ce qui nous passe par la tête et tout le monde va projeter un monde incroyable sur une image qui, en fait, est tout à fait personnelle et complètement imaginaire.
Et vous, personnellement, vous faites quoi dans votre professionnellement
pratique,
vous faites...
Je fais beaucoup de choses. Parce
vous êtes thérapeute.
Oui. Donc, je fais... c'est vraiment une continuité. Toutes ces activités, c'est comme un continuum. Donc, du côté le plus photographique, j'ai cette pratique artistique photographique où je fais du portrait et où j'emmène quand même mes modèles dans une pratique très introspective de
et
la
ça,
photographie.
C'est-à-dire ?
Je leur propose des thématiques auxquelles ils ne peuvent pas répondre de manière neutre. Par exemple, j'ai fait toute une série de portraits sur le thème de l'homme en relation au féminin.
Et donc, l'homme masculin
en relation au féminin. Ouais, donc, les hommes qui ont accepté de poser me disaient, qu'est-ce que tu veux dire, Émilie, par ça ? Et puis, je disais, moi, rien de spécifique. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Enfin, comment tu le conçois ? Donc, évidemment...
Et qu'est-ce qui est sorti de
là ? Ça ouvrait, là, on est dans la photo imaginaire. Donc, je leur demande de rentrer dans une... déjà projection, un mécanisme de projection de comment eux conçoivent, comment ils vont créer l'image. Et puis après...
Et en quoi c'est thérapeutique ?
Bah, ou là, ou dans ce cas-là, c'était pas dans ce cas-là, c'est une pratique artistique dans laquelle j'essaye de documenter le fait qu'on se positionne dans l'existence de manière très subjective. Et puis ensuite, j'essaye de le documenter dans les images. Ce qui peut être très intéressant parce qu'après, je peux utiliser ça pour expliquer ça dans d'autres cadres, notamment les cadres thérapeutiques. Je pense que, c'est pour venir au troisième terme du début de l'émission, en psychosomatique relationnelle, c'est vraiment ça. Donc là, on est dans une école de psychothérapie à Paris. Donc c'est l'école de Sami Ali, qui est un vieil Égyptien de 93 ans, magnifique personne, qui dit qu'il faut penser l'unité, donc penser l'unité du corps et de l'esprit, et de se poser la question de comment est-ce que ça a lieu, ce saut magnifique entre le corps et l'esprit. Et ça a lieu par ce mouvement de projection, qui est un mouvement de projection imaginaire de nos ressentis sur ce qu'on voit. Et donc la photographie, elle est magnifique, parce que quand on regarde des photographies, c'est exactement ça qu'on fait. On projette nos ressentis sur ce qu'on voit dans l'image. Donc c'est ça que je peux proposer à des modèles et dans ma démarche artistique. Et ensuite, ça peut me servir après pour documenter tout ce que je peux faire d'un point de vue clinique ailleurs. Mais ça, c'est vraiment pour la pratique artistique. Ceci dit, ça permet déjà d'expliquer beaucoup de choses. Et ce que je vois pour les modèles, pour certains d'entre eux, c'est toute une découverte. C'est la découverte des profondeurs de la photographie. C'est un entretien photographique où ils se découvrent eux-mêmes, où on explore. On est sur le fil, sous prétexte de faire une photo, on est sur le fil de... Ah, et comment tu te représentes ça? Et comment est-ce que tu le ressens? Et comment est-ce qu'on pourrait le mettre en scène pour le mettre dans une image? Et là, on rentre dans une autre dimension thérapeutique de la photo. C'est sous prétexte de faire une photo, on va mettre en scène comment on se sent et comment on se projette.
Et les personnes qui viennent vous voir sont, savent qu'ils, au départ qu'ils vont faire un travail thérapeutique?
Dans quel cadre?
Dans ce cadre-là? Dans
le cadre... Là, ils savent qu'ils viennent que je vais faire leur portrait en tant qu'artiste.
C'est artistique au départ, et ça le reste, ça devient...
Là, c'est thérapeutique au sens où ça peut éventuellement faire du bien. Au même titre que si je vais à la piscine, ça me fait du bien, ou que si je me fais masser, ça me fait du bien. C'est très différent quand quelqu'un me trouve sur Internet ou est envoyé par un médecin et va mal dans sa vie, estime qu'il a besoin d'aide, me téléphone et prend rendez-vous dans le cadre d'un cabinet de consultation. Il y a un monde de différence.
Et comment vous êtes venue l'idée de concilier thérapie et photo?
Alors, moi, j'avais
toujours... Vous êtes la seule à faire ça?
Non, pas du tout.
Ah, d'accord.
Donc, la photothérapie, la photographie thérapeutique, ça se pratique dans beaucoup de pays. Ça existe. Donc, il y a eu les pionniers, c'était au tout début de l'histoire de la photographie. À la même époque que Charcot. Donc il y a eu quelques psychiatres à l'époque qui ont fait des photos, donc comme Charcot photographiait les hystériques, mais à la différence c'est qu'eux se sont mis à photographier leurs patients et ont vu que ça faisait du bien non seulement aux patients, par exemple des orphelins en Angleterre dans un orphelinat, que ça fait pour documenter le fait qu'ils étaient en meilleure croissance ou des choses comme ça. Donc ils ont vu que ça faisait du bien.
C'est-à-dire en meilleure croissance.
Que vous voyez que les enfants arrivent en très mauvais état. Parce que
et puis vous pouvez voir qu'on photographiait au fur et à mesure.
Que ça allait mieux.
D'accord, donc ils avaient un repère dans le temps.
Ils documentaient le fait qu'ils allaient mieux. Et puis alors ça faisait du bien non seulement aux enfants, donc ça crée un cercle vertueux. Parce qu'évidemment, si je vois dans une photo que je vais mieux, que j'ai repris du poids, que je grandis, ben ça renforce, c'est un certificat d'authenticité. Hein. Quand on le voit dans une photo, on ne peut plus le nier, hein, que ça a bien eu lieu.
Donc ce serait intéressant pour les anorexiques, par exemple?
Oui, mais alors, donc, je vais d'abord terminer la réponse à la question. Donc ça a commencé au 19e avec certains psychiatres qui ont documenté ça et vu que ça faisait du bien, et aussi au personnel soignant. Puis après, il y a eu un deuxième essor dans les années 70. Ça s'est passé à la fois en Angleterre, et là, c'était plutôt des travailleurs sociaux, qui ont une femme notamment qui a eu le cancer, qui ont travaillé là-dessus. Et au Canada et aux États-Unis, c'était des psychologues qui ont créé donc les techniques de photoprojection notamment. Et après, je veux dire, il y a une espèce de... Il y a partout des pratiques de photothérapie, photographie thérapeutique, avec un festival en Italie. Et bon, en Israël, ils sont très, très actifs.
En Israël?
Ah oui, ils sont très actifs là-dedans. Et c'est même enseigné, je pense, à l'université. En Russie, en Italie, ils sont très actifs. Et alors, pour ce qui est de la partie francophone, moi, j'ai commencé à centraliser un peu tout ce qui se passait pour la photothérapie, la photographie thérapeutique. En francophonie, on va dire. Parce qu'il n'y avait personne qui l'enseignait. Donc, comme j'avais développé ma pratique artistique, plus une pratique thérapeutique, plus j'ai travaillé dans des quartiers, des associations et tout documenté sur le net, finalement, il y a des gens en France ou en Suisse qui m'ont demandé si je l'enseignais. Donc, j'ai commencé à l'enseigner en 2014. Et là, je dois avoir une...
Vous formez
Je forme des photographes.
Photographes.
Oui, donc je forme des... c'est aussi bien des photographes qui se sont rendus compte que ça avait une valeur thérapeutique, ça les intéresse d'en savoir plus que des médecins ou des travailleurs sociaux. Donc ça, je le fais en Belgique, au WILS, deux fois par an. Et puis alors maintenant, je l'ai développé aussi en Suisse, dans une école d'art-thérapie. Et si tout va bien, on va ouvrir un cours de psychosomatique relationnelle et de photothérapie à Casablanca l'année prochaine pour les psychothérapeutes, là, uniquement.
OK.
Voilà. Donc, mais ça, ça prend du... Donc,
maintenant qu'on sait plus ou moins ce que c'est, on va peut-être laisser décanter tout ça.
Avec un peu de musique.
Avec un peu de musique. On va écouter, voilà, Maître Gims et Bella avec...
Judaïka. Judaïka.
Attends, moi, je voudrais... Okay.
Jésus.
Alors, je me retrouve toujours avec Émilie Donchin, dit Donchin. Ça s'écrit D-A-N-C-H-I-N.
Oui, tout à fait.
D'accord, Donchin. Et je me demandais, ça se passe comment, en fait, une thérapie en photo-analytique? Est-ce que les gens apportent des photos d'eux-mêmes? Est-ce que vous les prenez en photo? Est-ce qu'ils choisissent des photos existantes?
Alors, l'utilisation de la photographie en thérapie, donc c'est d'abord, c'est un outil qu'on va éventuellement entendre. Donc là, on parle vraiment de consultation en thérapie ou en psychothérapie.
Alors, peut-être que la question que je devrais poser d'abord, c'est quel genre de, je dirais pas pathologie, mais de demande avez-vous?
C'est toutes sortes de demandes. Donc moi,
pas spécialement mal dans mon corps.
Non.
D'accord. Ce n'est pas que physique.
Ah non, pas d'accord. Du tout. Donc, c'est une consultation thérapeutique dans laquelle n'importe quel thérapeute, normalement, a quand même un modèle de travail, un modèle thérapeutique. Donc, moi, je fais de la psychosomatique relationnelle. Et puis, là-dedans, donc, les gens viennent avec toutes sortes de demandes. Et en fonction, donc ça va vraiment toutes sortes de demandes. Ça va du burn-out à la dépression, à je sais pas, la préparation à l'accouchement, au fait de vouloir se reconvertir professionnellement. Enfin, toutes sortes de demandes. Et puis aussi, effectivement, je me sens mal dans ma peau, je n'arrive pas à me regarder dans un miroir. Donc, ce genre de choses. Et alors, en fonction de la personne et puis de ce qu'on doit travailler, il va me sembler utile de proposer autre chose que le fait de parler en face à face. C'est okay. Là que peut intervenir effectivement la photo. Alors là, diverses manières de faire. Ça peut commencer simplement en disant « Ok, bonjour, vous êtes là, etc. Bah, écoutez, vous me dites que vous avez un souci, vous n'arrivez pas à vous regarder en photo. Est-ce que vous avez une photo de vous sur vous ? Puisque tout le monde a au moins une pièce d'identité. Et donc là, on va travailler en photoprojection. Je vais regarder la photo de la personne avec elle. Par exemple, on peut commencer comme ça. Ce qui va me permettre de voir le torrent d'émotions qui se trimballent autour de l'image. Hein, parce que c'est exactement ça qui se passe. Et alors, donc ça, c'est une manière de faire. Après, j'aimerais bien terminer parce que sinon je vais vraiment me disperser. Après, ça peut être utiliser une centaine d'images existantes. Donc, j'ai des tas de cartes postales où là, je les étale et puis j'y choisis des photos qui vous touchent.
Mais ça, c'est une autre façon de faire.
Après, je peux dire, OK, on va passer dans la pièce à côté. Je vais photocopier leur photo d'identité. Donc, ils vont la découper. Puis, on prend des grandes feuilles blanches. Puis, je vais dire, OK, maintenant, projeter. Voilà, vous savez, juste, on prend une grande feuille blanche. On considère que c'est la nouvelle photo imaginaire. La seule chose qu'on sait qui est existante dans cette photo, c'est leur petite tête qu'on vient de photocopier. Donc, ils doivent la mettre où ils veulent. Et puis, je leur propose de compléter librement. Donc là, on est dans vraiment un travail ouvert, non contraignant. Ou bien, on a parlé pendant 3 heures du problème de relation à monsieur, par exemple. Et à ce moment-là, je proposais de travailler plutôt sur la thématique sur laquelle on est en train de travailler. Ça, c'est une autre manière de faire. Après, on peut les prendre en photo dans le cabinet.
D'accord.
Ça, c'est tout ce qui peut se passer là. Après, je peux leur demander de préparer des photos. Amenez-moi, ça fait 1 heure ou ça fait 10 séances que vous me dites que vous avez un problème avec le féminin ou je sais pas quoi. Amenez-moi 20aine d'images qui, pour vous, expriment bien ce que c'est que le féminin. Donc ça, après, c'est au choix. Ils peuvent les découper dans les magazines comme ils peuvent les faire. Après, j'ai des listes d'autoportraits, par exemple. Vous me dites que vous êtes mal dans votre peau, etc., et très déprimé, et qu'il ne se passe rien dans votre vie. Ben, faites-moi 20 photos sur le thème du vous. Alors, ils choisissent le vous vraiment très déprimé, que personne n'imagine que vous êtes aussi déprimé. Ou alors, faites 10 photos sur le moi qui serait content.
Mais je reviens à ce que je voulais vous demander au début. Ouais. Quand la personne vous montre sa photo de carte d'identité, mm-hmm. vous dites qu'il y a un torrent d'émotions. Ouais. qui peut surgir comme quoi autour d'une carte d'identité.
Comme par exemple une femme qui regarde sa photo d'identité. Là, c'était dans un atelier. Je fais ça souvent aussi dans les ateliers. Et qui se fige complètement, qui regarde sa photo d'identité et qui fond en larmes en disant « il ne se passe plus rien dans ma vie ».
Juste en regardant
ça. Oui, comme quelqu'un qui regarde sa photo d'identité et puis qui dit moi ce que je... qui voyage. On voyage dans le temps hein, quand on regarde une photo d'identité. Imaginez, en fait... Donc, une femme qui va regarder sa photo d'identité, puis ça va la ramener au fait que dans cette photo-là, elle s'était coupé les cheveux, puis ça va la ramener au fait que elle s'était coupé les cheveux juste après le décès de sa mère.
Et il n'y a pas de...
Moi, je dis rien.
...d'exercice avant. Ce n'est pas que vous dites quelque chose...
Ça dépend, mais on peut commencer comme
vous
ça.
Vous dites juste, que voyez-vous dans votre carte d'identité?
Alors, c'est une photo de vous.
Oui, d'accord.
Comme je peux dire, alors ce que vous avez comme réaction, donc ça, c'est très très drôle, c'est les gens disent oui mais c'est juste, c'est très puissant hein, la photo d'identité. Donc les gens disent oui mais c'est juste une photo d'identité, puis ils veulent pas la regarder. Donc moi je vois aussi tout ce qui se passe dans la relation corporelle à l'image. Si vous avez quelqu'un qui met sa photo de soi sur la table et s'absorbe en s'approchant de la photo ou la regarde comme ça et que vous voyez que c'est une relation tendre à l'image, c'est physique, la relation à l'image est corporelle, ça c'est, il faut s'en souvenir. Là, vous allez voir tout de suite, avoir une indication sur le rapport de la personne à elle-même. Ce que vous voyez beaucoup, c'est des personnes qui s'éloignent, qui posent la photo sur la table et puis elles se reculent comme ça. Et donc là, c'est tout un travail pour ramener l'image. Et puis après, elles vont dire, oui, mais c'est qu'une photo d'identité.
Oui,
donc,
c'est ça que j'allais dire.
Oui. Donc je vais dire, gens... ah oui, bien sûr, vous seriez surpris. Et moi, donc moi, je vais susciter une curiosité. Et je vais dire, allez, trois choses qui me prouvent, dites-moi trois choses quand vous regardez bien votre photo, cette photo de vous, trois choses qui nous prouvent que c'est bien une photo de vous et pas une photo de votre sosie. D'accord, et là, vous voyez même... les personnes qui vous regardent et puis elles replongent dans l'image. Et là, on se repose très, très solidement, parce que c'est du concret, sur le fait que vous avez le contenu visuel, mais c'est un support couvert d'émotions, puisque c'est vraiment, on y est relié visuellement, donc corporellement. Et donc, s'il suffit juste de marquer un temps d'arrêt, la personne va trouver dans l'image des choses qui l'amènent, c'est des portes d'entrée vers les émotions. Donc ça, c'est...
Est-ce qu'il y aurait des gens aussi qui pourraient dire « je ne me reconnais plus dans cette carte, dans cette photo ?»
Il y a des personnes qui consultent, alors là, c'est, qui vont par exemple me choisir comme thérapeute parce qu'elles voient que je travaille avec la photographie, donc ils vont venir effectivement plus spécifiquement avec des difficultés liées à l'image. Exemple, bonjour, voilà, je vais prendre rendez-vous avec vous, je vous ai trouvé sur internet parce que vous faites la photothérapie et en fait je ne me reconnais pas dans l'image ou je ne supporte pas de me voir dans l'image. Est-ce que je peux venir pour que vous me preniez en photo pour qu'on puisse, parce que je n'arrive pas à me regarder dans une image. Ce sont des demandes très délicates, hein, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, des personnes qui en fait ne supportent pas leur image et ça passe plus
là,
ou moins inaperçu.
C'est lié directement à l'image, ce n'est pas dans, c'est pas un support pour aller plus loin, c'est direct, enfin comment dire, c'est directement une question.
Bah écoutez, si quelqu'un ne supporte pas de se voir en photo, c'est pas juste une question
non,
de photo.
Non, j'ai bien compris,
hein,
mais la demande, la porte d'entrée.
C'est une porte d'entrée vers un travail
vers
sur l'identité
travail,
qui va
d'accord.
être extrêmement délicat, parce que quand les personnes, plus la difficulté, vous savez, les troubles de l'image, ça va jusqu'au fait qu'on se voit de manière monstrueuse dans l'image. Ça va jusqu'au fait que quand on se regarde dans le miroir, on ne se voit pas. Le fait de ne pas se reconnaître quand c'est une image de soi et qu'on n'est pas dément, c'est quand même étonnant. Enfin, je veux dire, donc là, moi, quand j'ai ce genre de demande, je sais qu'il va falloir y aller très délicatement parce que ça peut être plus ou moins profond ce qu'il y a derrière. Mais donc, je sais que toute l'histoire probablement relationnelle de la personne avec les premières relations, donc avec la mère et avec le père, vont être rejouées dans l'image. Donc, on y va mollet hein, dans ces cas-là.
Pardon.
Oui. À vos souhaits.
Merci. Et donc, quand c'est un psy qui vous enfin, quand c'est un médecin qui vous envoie la personne, ce n'est pas la même démarche. On n'est pas dans la pardon. On n'est pas dans la même démarche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez utiliser les photos comme support. Dans le sens, l'autre, c'est quelqu'un qui vient lui-même en disant j'ai un problème avec mon image.
Oui.
Tandis que quand c'est quelqu'un pardon. Je crois qu'on va envoyer une autre musique. Pardon.
C'est quoi le problème? Calmez-vous! Calme-toi, tais-toi, il y a les keufs devant, on va jamais passer, taisez-vous! Vous voulez partir en vacances ou pas?
Oui!
Bah voilà! Voilà!
Pourquoi les policiers ne laissent pas passer parce qu'on n'est pas beau?
Mais non, t'inquiète, on est beau, on est stylé, on est tous ensemble. Ça va aller, ça va le faire, ok? Tout le monde se calme, ça va le faire.
Bonjour monsieur.
Pièce d'identité là, rapidement s'il vous plaît. Alpha
Diallo.
Alpha Diallo.
Beta Alpha Omega Easy 9 de Ouloulou. Un certain Alpha Diallo. Alpha Diallo 9D, c'est la Champion League. 9-3, c'est la Champion League. Pa, 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 pa.
Monsieur, je suis moniteur de colonie.
Je ne veux pas savoir. Je vous dis, vous avez un point. Matidi Charo. Matidi Charo. Appelez-moi quelqu'un là. Parce que. Oui. Ouloulou. Ouloulou. Monsieur, vous m'écoutez? Monsieur. Monsieur, il transforme en Pokémon ou quoi?
Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée.
J'ai pas dit, j'ai une astuce pour moins payer d'impôts. Ouais, enfin une combine quoi. Ouais. Non mais je peux pas te t'en parler là, mais ouais.
Je paye mes impôts moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. J't'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, peut-être parce qu'ils me trouvent.
Judaïka.
Voilà, bonjour, rebonjour, ça va, j'ai toussé tout ce que je pouvais, j'ai bu, j'ai mangé un bonbon. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer plus clairement, parce que je pense que ce n'est pas évident d'expliquer de la photo à des auditeurs. Je crois que c'est tellement visuel éventuellement. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer plus clairement c'est quoi l'analytique photographique et quelles sont les différentes démarches pour...
Oui. Sous analytique photographique, en fait, j'ai appelé ça comme ça à l'époque parce que, parce que je suis philosophe de formation et je voulais trouver une appellation sous laquelle j'allais pouvoir mettre toutes mes activités.
D'accord.
Qui vont de la démarche artistique, photographique, mais sachant que j'ai toujours été intéressée par ce qui était thérapeutique. Donc moi, en tant que photographe, j'ai une manière de faire la photo qui n'est pas tout à fait neutre. Hein. Je ne suis pas, par exemple, un grand reporter. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je fais. Et donc...
Reporter de vie.
Oui, ça s'est conjugué tout doucement et complètement combiné avec une démarche thérapeutique. Donc, sous analytique photographique, il y a la démarche artistique photographique qui documente beaucoup de choses sur le plan humain. Et à l'autre bout, il y a la pratique thérapeutique où les gens me téléphonent, sont envoyés par des médecins ou me trouvent sur Internet et viennent pour toutes sortes de choses parce que ça ne va pas et ils veulent faire une thérapie. Hein. Donc ça, c'est vraiment la consultation dans un cabinet privé. Entre les deux, il y a toutes ces pratiques de photographie thérapeutique, c'est-à-dire que il m'arrive de travailler dans des centres d'art ou dans des hôpitaux de jour ou dans des associations avec des groupes de personnes qu'on va dire sont fragiles, pour soit fragiles psychologiquement, par exemple en hôpital de jour pour adolescents, soit fragile aussi pour des raisons socio-professionnelles. Donc, voilà. Et là, donc, je crée des ateliers où je fais faire de la photo à ces groupes de personnes de différentes façons. Et donc, le prétexte est de faire de la photographie. Mais bon, moi, j'essaye de soigner au passage, mais soigner au sens large. Donc, on va faire, par exemple, avec des groupes, si, par exemple, parce qu'on parlait là, entre deux, on disait que ce serait pertinent de faire ça avec des, par exemple, groupes de femmes anorexiques ou... voilà. Bon, ben c'est sûr que là, ce sera intéressant, par exemple, de travailler en groupe et où on ferait un atelier photo. Mais étant donné que j'ai une double casquette et que j'utilise ce médium de manière très spécifique, il est évident que je vais aussi utiliser ses compétences. Donc, on ferait tout un travail sur l'identité. On pourrait faire le premier atelier, ben, on se présente au travers d'une photo d'identité, ce qui me permettrait, moi, de voir, d'avoir plein d'informations au passage sur comment ces jeunes filles ou jeunes femmes se situent par rapport à leur image, comment elles se voient. Comment elles arrivent à se regarder ou pas. Tout ça, c'est des tas d'informations qui sont très intéressantes sur le plan clinique. Hein. Et puis ensuite, on pourrait faire du collage, on pourrait faire du roman photo sur comment je me sentirais si j'étais... comment est-ce que je serais si je n'avais plus ce problème d'anorexie. Et puis, au travers de tout ça, on pourrait faire aussi leur faire faire des photos ou les prendre en photo, de voir ce qui est possible. Alors, dans ces ateliers, je travaillais beaucoup avec des femmes migrantes aussi, où j'ai eu des problèmes de droit à l'image, c'était des musulmanes. Je vais toujours adapter la pratique, c'est-à-dire que
oui, je vois, dire on voit sur votre site.
Oui, on peut pas se dire si on a un groupe, on peut pas se dire d'office d'entrée de jeu, c'est super et je prendrai toutes les personnes en photo parce que ça va leur faire du bien ou ça va les soigner. Non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. On peut se dire, ok, d'entrée de jeu, ce serait pas mal à un moment donné aussi de prendre les personnes en photo. Mais si dans le groupe, ça bloque avec une personne ou l'autre, il faut trouver un autre moyen de faire. Et puis, s'il y en a une où on sent que c'est une ou un, de les prendre en photo, qui leur fait un maximum de bien, ben on va essayer de les prendre encore plus en photo. Mais il y a toujours cette démarche où tout se passe dans la relation.
Entre
moi et les personnes.
Et la personne.
Ouais. Et tout, c'est avant tout dans la relation que ça se passe.
Et le média, c'est la photo.
Et le prétexte, c'est la photo. Ouais, le média, c'est la photo. Ouais.
D'accord. Et donc, quand vous dites dans le L, c'est la photo qui soigne.
Oui.
C'est dans ce sens-là. Donc, c'est la photo, quelle que soit la... Enfin,
la manière dont on le fait.
Dont on le fait, c'est une photographie qui soigne.
Oui.
Maintenant, chez nous, personnellement, quand on regarde nos photos...
Là, ça fait du bien. Enfin, ça dépend lesquels, hein, mais je pense que ça fait toujours du bien.
Ça.
De toute façon, c'est bien. Parce que quand on regarde des photos qui nous touchent, si on marque un temps d'arrêt, on prend un peu le temps de regarder un album photo, ça permet de... Regarder les photos, ça permet de voyager dans le temps. Ça permet de rebalayer une histoire personnelle. Ça permet d'exprimer des choses de l'ordre de l'intime qu'on ne penserait pas à les exprimer si on ne regardait pas les images, parce qu'il y a des choses qui nous reviennent. Et donc, de toute façon, ça fait du bien. Et on sait que ça a une influence sur le cerveau émotionnel. Donc, vraiment, ça fait du bien. Par exemple, j'encourage. J'encourage vraiment à... Ça ne coûte rien de le faire s'il y a des personnes qu'on aime. S'il y a des endroits qu'on aime, s'il y a des choses qu'on aime, pourquoi pas prendre ces photos, les coller sur le frigo ou les avoir dans son agenda ou sur son fond d'écran. De toute façon, c'est des choses qu'on fait assez spontanément.
J'allais dire, toute la mode des selfies.
Oui,
et
il faut les.
Et des photos iPhone,
non, j'encourage à le faire, de les regarder, de les avoir sous les yeux, parce que ça nous fait du bien. Et en fait, vraiment, on dialogue. En fait, quand on regarde une photo, on dialogue silencieusement avec toute notre histoire émotionnelle et toute notre histoire corporelle. Alors, c'est bien plus vaste que ce qu'on sait. Donc, ça fait du bien. Et donc, si on a des photos qui nous touchent et c'est agréable, elles nous remuent un peu et c'est agréable, ça vaut vraiment la peine de souvent les regarder. Ça ne coûte rien de le faire. Hein. Et on le sait, hein, donc ça vaut vraiment la peine, par exemple, de passer du temps avec des personnes, les projets de photographie thérapeutique avec des personnes âgées. C'est assez merveilleux. Hein. Moi, j'ai fait ça, emmener des personnes âgées à la rencontre d'autres personnes âgées dans les tours sociales derrière la gare du Nord. Hein. Le prétexte était de leur faire raconter un peu comment elles se sentaient, là où elles vivaient. Et puis, comme c'était des vieilles dames, elles avaient beaucoup de photos. Et donc, ça s'est transformé. On regardait toutes ces photos. Et en l'espace d'une heure, vous voyez, les personnes, c'est comme si elles se revitalisaient d'un seul coup. Parce que quand on regarde les photos, les émotions sont là, on bascule dans l'intime. Et c'est assez merveilleux aussi, parce que même dans des pratiques où on ne voudrait pas aller trop dans des choses personnelles, par exemple dans du coaching en entreprise ou des choses comme ça, c'est super d'utiliser les photos. Parce qu'en utilisant les photos, les personnes vont basculer dans l'intime, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se mettre à parler et puis ça va être chargé d'émotions, ce qui va se dire. Sans pour autant nécessairement dire « je suis divorcée, je suis malheureuse à la maison » ou des choses comme ça, ou « j'ai été battue dans mon enfance hein. ». On va juste pouvoir parler et ça va être chargé d'émotions. Rien que ça, c'est extraordinaire. Hein. Donc,
quelque part, c'était peut-être un manque qu'on est en train de remplir mm-hmm. avec toutes les photos qu'on prend et qu'on poste sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. On pourrait peut-être imaginer ça aussi. On prend quand même beaucoup de photos.
On prend beaucoup de photos. Ouais. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure on les regarde. J'ai pas de réponse là-dessus, mais Facebook, on les regarde quand même un peu plus. Je crois que les... On partage beaucoup. La seule question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on regarde ces photos sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'elles sont regardées? C'est-à-dire quel temps est-ce qu'on accorde pour vraiment les regarder? Parce que ce qui est très intéressant, c'est justement de marquer un temps d'arrêt sur l'image. Vraiment, c'est de l'image fixe. Hein, sinon, alors que sur les réseaux sociaux, quand on voit les gens aussi sur leur tablette, voilà, on les passe les unes après les autres très, très vite. Alors que si on regarde des photos qui sont imprimées sur papier ou dans un album, on les regarde à un autre rythme. Donc ça, c'est puis elles restent. Donc il y a la question de la conservation des images et à quel rythme on les regarde. Qui est quand même une question importante. Et parce que, j'en profite pour le dire quand même, toutes ces photos digitales, elles sont amenées à disparaître. Hein, donc, ça faut quand même s'en rendre compte.
Si on ne les développe pas, elles vont disparaître, ça
quand
c'est clair.
Quand on a aussi la qualité des papiers sur lesquels on les développe aujourd'hui, je pense qu'elles sont vouées à disparaître. C'est des questions qu'on doit se poser.
Et quelle est la place du photographe quand on est...
En photothérapie?
Oui.
Alors, le photographe, quelle place il peut avoir? Il peut y avoir un photographe thérapeute à ce moment-là, donc il est ce qui est mon cas. Donc là, je peux être présente aussi comme photographe dans le cadre des thérapies.
Mais vous êtes, est-ce que le fait d'être caché entre guillemets derrière un appareil, vous
dans ce sens-là,
il y a peut-être une distance thérapeutique qui s'installe, qui vous permet de prendre une distance avec la personne ou pas, ou ça n'a rien à voir? Le fait qu'il y ait un appareil entre vous et la personne.
Mais...
Vous comprenez ce jeu? Non.
C'est un outil. C'est... la distance avec la personne. Donc moi, je pense qu'en thérapie, c'est pas qu'il doit y avoir d'office une distance.
Non, mais elle est
comme
là quand
chez les Lacaniens, hein, où il fallait être dans la neutralité, sacro-sainte neutralité psychanalytique, qui est complètement délirante. Parce qu'en thérapie ou même dans des ateliers, quand on accompagne des personnes, pour qu'elles, dans n'importe quel cadre, je pense qu'il faut savoir jouer du proche et du loin. Donc, avec l'appareil photo, là où c'est génial en tant que photographe, c'est que la photographie permet de jouer du proche et du loin avec chaque personne tout à fait différemment. Par exemple, en tant que photographe, ça va me permettre de m'approcher de quelqu'un peut-être plus en tant que thérapeute que si je n'avais pas mon appareil photo.
Ok.
Parce qu'on peut venir faire un zoom, on peut même venir toucher la personne. On peut faire plein de choses qu'on ne pourrait pas faire si on ne devait pas faire une photo. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça nous permet de regarder la personne aussi, même presque de la scruter, ce qui serait insupportable.
C'était ma question suivante.
Hein, ouais.
Donc, est-ce que l'appareil photo vous permet peut-être de regarder la personne aussi différemment?
Ah oui, ça, bien sûr. Surtout si on est photographe.
Donc, il y a des choses que vous pouvez aller...
Ah, moi, je fais du portrait depuis l'âge de mes 14 ans. Et j'ai cette démarche quand même de plus en plus d'approfondissement de la relation humaine. Donc, ça, c'est sûr que quand je photographie les personnes, je vois beaucoup de choses. Je suis dans quelque chose de très, très profond. Où je pense que là, ce n'est pas tellement une question de distance. Je pense qu'on ressent énormément de choses aussi en tant que photographe quand on a un regard qui est... On voit beaucoup de choses sans le savoir, à la limite. Et donc, on a plein d'intuitions, on a plein de ressentis. Et puis, c'est comme si dans le viseur, tout d'un coup, tout était magnifié. Tout était comme si on avait une loupe. Comme si, parce que voilà, c'est comme plus on regarde, plus on voit de choses. Et puis, plus il y a de détails. Et puis, on voit la personne qui vit derrière.
Hein, malheureusement, il nous reste 10 minutes. Mm-hmm. Mais que disent les personnes quand elles viennent chez vous par après, qu'est-ce qu'elles disent par rapport aux photos que vous avez prises d'elles, par exemple, dans le cadre d'une thérapie? Elles disent, par exemple, maintenant j'aime me regarder, ou je me suis réapprivoisé mon corps, ou est-ce qu'elles disent quelque chose par rapport aux photos quand c'est vous qui avez pris des photos d'elles et que vous les avez retravaillées avec, enfin, vous avez travaillé l'image avec.
Je ne fais pas ça, hein, faire cette espèce de travail de relooking des personnes.
Non, non, pas de relooking.
Non.
Non, pas du tout relooking.
Ah oui,
mais
parce
que après
de retouche, je ne fais pas de retouche photographique.
Non, pas du tout. Au contraire.
Oui, voilà.
Est-ce qu'elles. Non, le contraire. Est-ce qu'elles disent. Bien maintenant, j'arrive à me regarder différemment ou je me vois différemment. C'est quoi le retour
C'est se voir différemment.
D'accord.
Il y a presque un phénomène de quasi-hallucination dans les images.
C'est-à-dire
on voit vraiment ça, c'est très très beau. Donc on voit des personnes qui regardent leur image. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on va, on va bien prendre le temps de les regarder après. Et donc il y a tout un mécanisme sur lequel elles vont pouvoir en fait dire ce qu'elles ressentent, reprojeter les émotions et à un moment donné intégrer quelque chose sur le plan émotionnel. Et du coup, le fait d'avoir intégré quelque chose sur le plan émotionnel va faire que la personne tout d'un coup se voit autrement.
Donc elle verrait sa photo de carte d'identité différemment.
Tout à fait. Donc
après
vous avez des personnes, j'ai souvenir d'une femme qui est venue avec une photo d'elle dans l'enfance, qui était une photo d'elle où elle ne sourit pas. Une photo d'elle est très triste sur cette photo. Et après avoir passé facilement une demi-heure à être assise à côté d'elle et à l'accompagner dans ce qu'elle voit dans l'image, et finalement, elle se voyait sourire. Donc ça, c'est très, très beau parce qu'on voit tout d'un coup les personnes qui
s'absorbent. Donc, elle ne sourit pas dans l'image.
Il y a vraiment des phénomènes de quasi-hallucination. Donc,
là,
tout d'un coup, il y a quelque chose. On se voit autrement dans l'image et donc, du coup, on voit l'image autrement, réellement. Et, une fois que ça a été vu autrement dans l'image, ben on ne verra plus jamais l'image de la même façon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme dans l'image.
Que vous avez apporté en travaillant
avec
elle. Que
moi, j'ai fait d'elle, ou qu'elles ont apporté elles-mêmes, ou qu'elles ont choisi dans un tas de photos, c'est la même chose. Mais on voit vraiment, hein, donc on voit des personnes. Alors, sur la photo d'identité, c'est assez phénoménal. Mais on voit les personnes, tout d'un coup, s'absorbent et elles ne voient plus la même chose. Et là, c'est très, très beau. Elles sont assez un peu... C'est comme une hallucination, donc c'est vraiment elles s'absorbent, elles regardent, elles se mettent à sourire, elles sont étonnées. Alors là, c'est là où où c'est bien d'être formé en photothérapie, parce qu'il faut être capable d'accompagner la personne pour qu'elle verbalise ce qui se passe, pour que ça rentre aussi sur le plan cognitif et de la mémoire. Donc elle verbalise, qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous avez vu cette image, ça fait 20 minutes qu'on regarde cette image de vous qu'on a faite la semaine dernière. Il s'est passé beaucoup de choses, vous voyez, le temps passe, une demi-heure qu'on est dedans. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, la personne, à ce moment, peut expliquer ce qui lui est arrivé. Donc, on se donne toutes les chances pour que ça se fixe aussi sur le plan...
Parce que je reviens sur la photo de carte d'identité, mais la photo du permis de conduire, elle est
c'est
bien
pareil.
Pire, souvent. Enfin, non.
En fait...
je me rappelle que, pas à l'école, mais par après... Quand on montrait les photos de carte d'identité ou de permis de conduire, c'était toujours des moqueries. Je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un dire « Qu'est-ce que tu es beau sur cette carte d'identité ?»
Alors voilà, mais là, c'est
donc,
quand on travaille...
Aussi...
Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est important, je pense, surtout si on se destine à utiliser ça dans le cadre d'un métier de thérapeute ou dans un accompagnement pour soigner les personnes, hein, même si on n'est pas psychothérapeute. Il y a toutes sortes de manières de soigner les personnes. C'est important d'être formé, je pense, parce que c'est pas très compliqué. Mais la chose à faire quand quelqu'un nous amène une image et qu'on est dans un cadre thérapeutique, c'est surtout. Mais nous aussi, quand on voit l'image, on voit plein de choses et donc on aurait tendance à parler. On rit, on se moque, on dit ah, que
ça.
Tu es belle. Peu importe d'ailleurs qu'on dise que tu es belle ou que tu es moche.
Si la personne ne se voit pas en beau ou en moche.
Dès qu'on dit quelque chose, on coupe la personne de ce qu'elle voit. Donc, il faut surtout se dire, ok, on m'amène une image et je fais, moi c'est vraiment ça, je me dis, je fais comme si c'était, à la limite, j'étais une extraterrestre et que je ne reconnais rien et je me tais, je la boucle. Donc c'est les questions ouvertes. Ah, c'est une photo, c'est une photo de quoi? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Trois choses qui ont attiré votre attention. Et alors on induit comme ça cette transe, parce que c'est vraiment une transe hypnotique, hein, mais les yeux ouverts, on
et
est quand même conscient.
Vous avez déjà... travailler avec des adolescents.
Ah oui,
ils ont aussi
un
problème, enfin un problème, pas tous, mais il y en a quand même pas mal qui ont un problème à l'image, leur corps qui change, l'acné, voilà, leurs cheveux, enfin tout change chez eux.
Ce qui est compliqué avec les adolescents, c'est que c'est une
période... Ils n'aiment pas être pris en photo.
Disons qu'effectivement, la photo, elle est pertinente dans les périodes de vie où le corps est soumis à de trop grosses transformations, parce que c'est angoissant, on ne se reconnaît plus. Alors là, c'est intéressant de travailler avec la photo. Donc effectivement, l'adolescence, effectivement, le grand âge, la vieillesse, mais effectivement aussi des périodes où on tombe malade, comme Pascal quand elle est tombée malade et que le corps est mis à rude épreuve. Je pense aussi pour les personnes qui font de la chirurgie esthétique, je pense que c'est pas, ou qui maigrissent très brusquement, c'est intéressant quand même de documenter ce qui se passe dans les images, parce qu'on ne se reconnaît plus après. Donc il faut pouvoir trouver les moyens de se reconnaître. Voilà.
Et elles ne se reconnaissent pas au départ, mais une fois le travail fait avec vous, elles s'y retrouvent.
Ça peut, oui.
D'accord. Et les ados réagissent comment généralement ?
Les ados sont plus méfiants, mais c'est le travail avec les adolescents. C'est d'abord c'est sur le plan de la relation que ça se passe. Il faut pouvoir apprivoiser les ados. Alors, en atelier, moi, j'ai une collaboration avec le centre ado ici à Bruxelles depuis 5 ans. Et bon, ça se passe bien. Il faut juste savoir les mettre à l'aise.
Je trouve que même la photo de classe est intéressante à analyser.
Toutes les photos sont intéressantes.
Oui, toutes les photos.
À partir du moment où elles nous touchent.
D'accord.
Ouais. Avec les ados, moi j'aime faire des romans photos, leur dire on va travailler sur le thème du héros, alors ton héros préféré c'est quoi, ou le voyageur, mais toi quelles sont tes qualités de voyageur, puis je leur fais faire des photos, je leur fais incarner le personnage plein de ressources, et je fais tout pour les mobiliser autour d'images qui vont les renforcer, et puis je parle de la transformation corporelle avec eux, j'amène des livres photos où on voit des corps grands, des corps petits, comme dans Alice au Pays des Merveilles, et je leur parle de ça, c'est quand même pas évident hein, pour le moment pour toi et tout, et donc ça les rassure de savoir qu'on comprend ce qui leur arrive.
Et pour la dernière minute, oui. Comment on fait pour vous joindre, comment est-ce alors, qu'on fait pour vous atteindre, pour prendre rendez-vous, combien de temps dure une consultation?
Alors les consultations, donc dans le cadre du cabinet donc de thérapie, elles durent une heure.
D'accord.
Voilà, et on prend rendez-vous en me téléphonant.
Et on trouve vos coordonnées.
Alors, je vais donner le téléphone. C'est le 0498 16 14 11.
D'accord.
Et sinon,
il sera mis sur notre site, ouais. Sur Radio Judaïque.
Sinon, alors, pour se renseigner un petit peu plus, éventuellement.
Vous avez un site.
Oui, donc le site, c'est analytiquephotographique.be. Donc, je vais le épeler analytiquE. photographique.be. Voilà. Et si on l'a oublié, il faut taper Émilie Danchin et là on me trouve. Donc il y a deux autres sites. Il y a émiliedanchin.be qui est le site artistique qui vaut quand même le détour. Et puis ensuite, il y en a un autre qui est plus pour l'entreprise. Facebook est un bon canal aussi pour être au courant de mes activités parce que tout le monde
et là c'est sur Émilie Danchin.
Ouais, Émilie Danchin, donc il y en a deux hein. Il y a une jeune femme à Paris et puis il y a moi en Belgique et là on voit les photos de groupe de formation aussi, on voit plein de choses, donc voilà, et je suis assez réactive, si on m'appelle en général je rappelle assez vite.
Bon, merci beaucoup. Ce n'était pas un exercice facile de parler de photos à la radio. On y est arrivé.
Oui.
Je pense qu'on a toutes les informations. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine, c'est Patrick Collignon qui viendra nous parler de Enfin moi. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Moi, je soignerai ma toux. C'est promis, la semaine prochaine, je ne tousserai plus. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Et merci de votre invitation.
Avec plaisir.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur. voyager en deux hémisphères comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras.
Radio Judaïka est heureuse de vous annoncer la reprise de l'émission de la communauté juive d'Anvers. L'Anvers du décor, animé par Katia Selman et Muriel Markovici, sera diffusé tous les troisièmes mardis du mois, de 14h à 15h, et vous pourrez l'entendre en rediffusion deux semaines plus tard, même jour, même heure. Première émission, le mardi 15 novembre. Soyez nombreux à l'écoute de nos amis anversois.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן, זהו זמן שיגעון מהומה עד אין קץ, ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל מתפוצץ, ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. שעזבת החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר, זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע, אותו שיר כאב הולך וחוזר, ובאופק אחר סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני. שעזבת הרבה השתנה כאן, זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר, ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר, הנר שלך מאיר עדיין בוער, ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבוב זר קוצים רחני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס ענק, שורק בלוז כנעני.
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן. הנר שלך מאיר עדיין בוער.
Le changement.
ראיתי איך עינייך יפות דיברו בלי קול, ומבטך וחיוכך סיפרת לי את הכל. בכל מילה ייחוד צחוקך עולם אחר לא שלך. רצית לדעת מדוע נשארתי טוב ונחמד איתך. שלא תעצבי עוד, לא תחווי עוד, לא תהי לבד יושבת בעולם אכזר. שלא תעצבי עוד,
חושבת בעולם אכזר. שנותייך היפות חולפות ואיש לך לא ישיב את אלומייך הקצרים, את עם החיים. רציתי לחבקך ברוך ולחבק